Ma sœur, mesdames, messieurs, sujet surprise effectivement, puisque sur la petite affiche, le petit tract, il n'y avait pas de titre. Donc je vous ai fait une surprise et je vais vous parler de Babar et le roi. Personne n'a l'air surpris, donc tout va bien. Nous, en fait, il s'agit de quelques remarques sur le totalitarisme. Alors, un titre qui appelle d'abord une remarque. Ce sont bien des notes, des propos libres, des relevés de lecture que je vais vous faire sur un mot que l'on rencontre assez souvent dans les discours, les émissions radio, ou télévision, ou sur Internet, YouTube, etc., pour décrire la situation que vit actuellement notre pays, ou la situation dans laquelle devrait se trouver prochainement notre pays. On peut en effet voir se multiplier les références au nazisme, au communisme. On entend parler d'islamo-gauchisme, d'éco-terrorisme, avec force citation de livres comme 1984, Le meilleur des mondes. Le tout avec des approximations, des raccourcis, qui, s'ils sont saisissants, n'en sont pas moins souvent un peu trop des raccourcis, justement. Par exemple, des slogans comme « La guerre, c'est la paix »,« La liberté, c'est l'esclavage », l'ignorance et la force suffiraient, pour beaucoup, à refléter exactement ce que la sylvan démocratie française serait devenue. Tout le monde parle d'inversion accusatoire, de contrôle social à la chinoise, et Jean-Michel serait un prénom féminin. Ce qui n'importerait pourtant, avant de savoir quelle qualification serait applicable à notre situation présente, ce serait d'examiner ce que le terme de totalitarisme recouvre le plus précisément possible, d'en cerner les limites et peut-être par-delà une certaine mode intellectuelle, utiliser de vieilles idées, de vieux concepts pour la bataille que nous avons à mener. Nous commencerons donc par le plus facile, un rappel de ce qu'ont été deux régimes politiques définis de longue date comme totalitaires, nazisme et communisme, auquel j'ajouterai un troisième cas, l'islamisme, puisque nous verrons plusieurs définitions possibles de la catégorie totalitarisme. Nous verrons les lacunes et les limites de la chose. Pour nous poser la question de ce que c'est que la société politique pour un chrétien, et nous essaierons donc de dessiner, pour conclure, ce que serait la conduite raisonnable du pays. Regardons donc d'abord l'histoire. Donc, communisme, nazisme, islamisme. Le premier régime qui nous vient à l'esprit dans l'ordre d'apparition sur la scène politique, c'est le communisme. De quoi s'agit-il? À la suite d'Hegel, Marx affirme que tout est dialectique. Mais là où Hegel parlait de conflit dans l'ordre de la pensée, Marx dit que c'est du conflit des forces de production que naît l'histoire du monde, toute l'histoire du monde. L'histoire humaine serait donc conditionnée par l'évolution des rapports de production, celle de leur influence sur les institutions et la culture qui découlent des classes sociales, dont chacun est membre en fonction de sa place dans le processus de production. Quels sont donc ces rapports? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer simplement, c'est très simple. Le travailleur a besoin de 100 francs par jour pour vivre et dit que pour ce prix-là, il peut travailler 4 heures. Le capitaliste, propriétaire des moyens de production, va lui dire que s'il veut 100 francs, il devra travailler 8 heures. Les 4 heures d'écart servent à payer le profit, qui est donc le vol du travail du salarié. Subséquemment, il faut que le travailleur donc lutte pour faire reconnaître par le producteur une plus forte valeur d'échange de son travail. Ou mieux, il faut qu'il lutte pour abolir le système qui produit son exploitation. Ce conflit permanent entre les deux classes, possédant et exploité, s'appelle lutte des classes. En résumé donc, lutte entre le travail exploité et le capital qui vole le travail pour en faire son profit. Ce concept est essentiel dans le manifeste du Parti communiste écrit en 1848. Cette lutte des classes va alimenter les luttes que doivent mener les opprimés pour d'abord améliorer leur situation, puis s'émanciper. C'est de cette lutte que sortira la société sans classe, fondée sur la propriété collective des moyens de production, c'est-à-dire la société communiste. De cette lutte sortira victorieux donc le prolétariat qui imposera le socialisme en établissant pendant une période intermédiaire sa dictature. Le temps de passer du capitalisme au communisme. En effet, la société sans classe ne peut advenir du jour au lendemain. Lénine ne prévoit pas de durée à cette période de dictature du prolétariat. Et ça dure depuis un certain temps dans certains pays. Elle doit durer tant qu'il est nécessaire d'agir pour abolir toute forme d'exploitation capitaliste. Lénine définit la dictature du prolétariat comme un pouvoir conquis par la violence, que le prolétariat exerce par l'intermédiaire du parti, pas tout seul donc, sur la bourgeoisie et qui n'est lié par aucune loi. C'est une évolution du marxisme et Lénine dit lui-même dans « L'État et la Révolution » écrit en 17 que celui-là seul est un marxiste qui étend la reconnaissance de la lutte des classes jusqu'à la reconnaissance de la dictature du prolétariat. Donc le parti va exercer le pouvoir pour le compte du prolétariat dont il est l'avant-garde pendant une durée qui n'est pas déterminée. Comment cela va-t-il fonctionner? Ben notamment par le centralisme démocratique, ce qui signifie qu'en fait, une fois qu'une décision est prise dans le parti, tout le monde doit lui obéir. En clair, ce qui a été décidé unanimement doit être appliqué unanimement. Le parti ne se trompe jamais. L'infaillibilité communiste. D'ailleurs, Léonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, affirmait en 68 que seul le parti armé de la théorie d'avant-garde, le marxisme-léninisme, est capable de donner la solution juste au problème. Seul le parti, soudé par l'unité de conception et d'action, possédant une grande expérience de l'activité politique et d'organisation, est capable d'orienter tout le travail d'édification du communisme vers le but fixé. Le communisme est, pour résumer en deux lignes le propos, une idéologie qui enferme les individus dans leur rapport de classe que peut seul transcender le parti, lequel se retrouve en situation de contrôler tous les domaines de la vie pour les orienter dans le cadre de l'édification du socialisme. La traduction dans la constitution de l'URSS donnera son article 6 ainsi rédigé. Le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique. Évidemment, le parti détenant la vérité, le journal du pays s'appelle La Vérité, Pravda en russe. Les opposants sont des asociaux qu'il convient de rééduquer en camp ou d'enfermer en asile psychiatrique. Et l'économie devant être collectiviste, la propriété privée disparaît ou presque. Il faut rappeler que les sovkhozes, donc première construction économique soviétique, ont échoué. Et donc, ont été créés des kolkhozes qui associaient une forme de propriété privée qui, mystérieusement, produisait plus. Deuxième régime dans l'histoire, apparaître dans l'histoire sous l'appellation, enfin, sous ce qu'on appelle régime totalitaire, le nazisme. Il faut noter en préambule que de nombreux petits partis politiques marqués très à droite se développent à la fin de la Première Guerre mondiale en Allemagne et qu'Hitler n'est pas membre de ce qui va devenir le parti nazi. Au programme de la Deutsche Arbeiterpartei, le parti des travailleurs allemands, figure l'établissement d'un régime socialiste germanique, un régime anti-marxiste, même si le nom socialiste est utilisé. L'économie au cœur du projet marxiste n'est pas au centre du programme de ce qui devient le NSDAP, dont Hitler prend la tête en 21. Et le programme du NSDAP tient dans le livre célèbre écrit à cheval sur 24 et 25, dont une partie en prison suite à un coup d'État manqué, Mein Kampf. En résumé, la Volksgemeinschaft, qu'on peut traduire plus ou moins par nation allemande dans toutes ses dimensions, injustement privée de ses droits à dominer le monde en tant que race supérieure, doit conquérir son espace vital, le fameux Lebensraum, à l'est de l'Europe. Ce programme va trouver à s'appliquer d'abord par voie diplomatique, avec l'annexion de régions frontalières peuplées d'Allemands, par exemple les Sudètes ou l'Autriche, puis par voie militaire à partir du 1er septembre 1939. Bien évidemment, le régime qui représente la Volksgemeinschaft doit aussi veiller à la pureté de celle-ci et éliminer tout ce qui s'oppose à son élan vital. Donc tous les adversaires, qu'ils soient politiques ou ethniques ou religieux. Y passeront les communistes, les socialistes, les juifs, divers autres groupes jugés asociaux, et bien sûr tout ce que la catholicité a pu produire de résistants. Pouvons penser à Saint-Maximilien Kolb ou Hans Scholl, fondateur de la Rose Blanche. La jeunesse est embrigadée obligatoirement à compter de 1939. Bien entendu, les élections pluripartites sont supprimées, puisque le parti nazi est le seul autorisé à partir du 14 juillet 1933, encore un 14 juillet qui laisse des souvenirs, et se confond avec la société à partir de la loi du 1er décembre 1933 pour la garantie de l'unité du parti et du Reich. En effet, le parti porte le concept même de l'État, et donc le parti étant au pouvoir, État et parti sont indissociables, la structure du parti étant la continuité de l'État dans chaque strate de la Volksgemeinschaft. Toute la société est ainsi nazifiée. Et par la loi du 24 mars 1933 de réparation de la détresse du peuple et du Reich, on fait de la poésie en plus dans les titres de loi, Les Allemands donnent tout pouvoir aux dictateurs pour gouverner par décret. Il faut combattre ici une idée répandue selon laquelle Hitler serait arrivé au pouvoir par les urnes. En novembre 1932, son parti, qui représente 37% des électeurs, est en recul. Et en mars 1933, dernières élections pluripartites, dans un climat de violence qui rappelle les massacres en moins celui des élections à la Convention de septembre 1992, chez nous, il n'obtient pas 50%. On doit alors expliquer l'essor et l'adhésion au régime par une série de ressentiments, issus pour certains de la défaite de 1918 pour les militaires et l'aristocratie, issus de l'échec de la politique de Bismarck, qui a fondé véritablement l'Empire seulement en 1871, contre tout ce qui n'était pas prussien, ressentiment de la petite bourgeoisie plus que menacée par la crise de 1929 après avoir essuyé celle de 1920-1921. Il faut rappeler le souhait également des dirigeants des concerns. Alors, les concerns, ce sont des grands groupes. Ce sont des familles qui contrôlent des entreprises dans tout un tas de secteurs. Je dirais presque, pas comme une holding, l'ancêtre de la holding, je dirais presque. Donc, il faut le rappeler, le souhait des dirigeants des concerns de développer leur marché, réduire les coûts et donc réduire les contre-revendications des ouvriers soutenues par des syndicats et des partis de gauche très puissants à l'époque. En novembre 1932, le Parti social-démocrate et le Parti communiste dépassent le parti nazi de 4%. Donc ils sont à 41%. Mais on doit évoquer aussi évidemment la place toute particulière d'Adolf Hitler dans le régime. Hitler est présenté par la propagande, il va finir par y croire lui-même, comme la personnification de l'Allemagne, la seule cause du miracle économique, la voix du peuple, l'équilibre entre les radicaux nazis et les élites traditionnelles, le défenseur acharné des droits de l'Allemagne, le rempart contre les ennemis et enfin un chef militaire hors du commun. Qui pourrait bien s'opposer à un pareil individu? Mais surtout, il peut rassembler tous les intérêts particuliers contraires. Il va y en avoir qui se manifesteront tout au long de la durée du régime. Grâce à ses qualités de dépassement des égoïsmes, au seul profit de l'idéal allemand. N'a-t-il pas dit qu'il ne pouvait pas se marier puisqu'il l'était déjà avec l'Allemagne? Troisième cas, alors ce n'est pas un régime politique ayant existé dans l'histoire récente, quoique je vous laisserai juger. Autrement connu sous le nom de salafisme, c'est le courant auquel appartient le parti fondé par Hassan al-Banna au début des années 20. Il s'agit pour le fondateur de revenir à l'intégrité du mode de vie des salafs, les premiers musulmans. Hassan al-Banna adopte la branche saoudienne du mouvement, le wahhabisme, comme remède aux maux dont souffrent les pays musulmans de son époque. Ainsi, il faut restaurer la charia, réislamiser l'homme, puis une fois cela fait, il faudra en faire autant des familles, de la société et pour finir par l'État. L'humanité étant une et indivisible, l'aboutissement dernier de tout ceci est bien entendu la conquête du monde entier. En 1936, un manifeste en 50 points est publié, qui comprend entre autres joyeuseté, envisager l'imposition d'un code vestimentaire uniforme pour toute la nation, s'occuper de la question de la femme d'une façon qui améliore son statut et lui assure une protection qui soit conforme aux enseignements de l'islam. Il y a beaucoup question de surveillance, de punition, de censure, de sanctions, etc. Mais on peut y trouver quand même quelques petites choses amusantes comme réduire le nombre de postes dans le secteur public en ne conservant que ceux qui sont nécessaires. N'oublions pas le premier point du programme, mettre fin aux rivalités de partis et canaliser les forces politiques de la nation dans un front uni et dans une seule phalange. En clair, le parti d'Albana, qui disposera en outre d'une police des mœurs pour surveiller l'application de la charia dans toutes les activités de la société. Communisme, nazisme et islamisme présentés très rapidement nous montrent des traits communs, ce qui a conduit à des définitions très proches sous le vocable commun de totalitarisme. Pour autant, ce concept doit être critiqué. En effet, il a des contours assez flous. Hannah Arendt, une des premières philosophes d'après-Deuxième Guerre mondiale à se pencher sur la nature de ces régimes, dit que le totalitarisme est un mouvement international dans son organisation, universel dans ses visées idéologiques, planétaire dans ses aspirations politiques. Le totalitarisme, en un mot, cherche la domination totale sans limite. Dans les années 50 également, Friedrich et Brzezinski, celui qui a écrit le Grand Échiquier, identifient comme régime totalitaire un régime dans lequel on trouve six éléments. Une idéologie officielle, un parti de masse unique, la terreur policière, le monopole des médias, le monopole des forces armées et une économie planifiée. Enfin, citons le français Raymond Aron, qui s'en tient à 5 critères. Monopole du parti, idéologie du parti comme vérité officielle, monopole de la force et des moyens de persuasion concentrés entre les mains de l'État, étatisation des activités économiques et principe selon lequel la faute commise est une faute idéologique, sur l'auteur de laquelle s'abat la terreur policière et idéologique. Si nous voyons bien dans ces différentes définitions que les trois régimes décrits ci-dessus, qu'ils se soient concrétisés ou non, remplissent plusieurs critères, et notamment celui de domination totale sans limite, il semble toutefois que la catégorie totalitarisme soit sujette à quelques faiblesses. D'abord, du point de vue historique, vous vous endormez, vous. D'abord, du point de vue historique, le terme même de totalitarisme est utilisé pour la première fois par Amendola, fasciste italien. Mussolini revendique ainsi en 1925 la feroce volontà totalitaria. Il reprend le terme avec le philosophe Giovanni Gentile de leur encyclopédie italienne. La formule de Mussolini est restée. Tout dans l'État, rien en dehors de l'État, rien contre l'État. Cette philosophie de l'État fait de ce dernier l'institution capable d'engloutir complètement la société civile. Quelle étrangeté alors que le seul régime qui ait revendiqué l'appellation totalitaire n'ait jamais été décrit comme tel par tous ceux qui ont voulu décrire le totalitarisme. Le terme va être repris par Maritain et même par Trotsky, bon, c'est pour dénoncer son ancien petit camarade, mais les deux régimes nazis et communistes vont être désignés comme totalitaires à partir du pacte germano-soviétique. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de l'utilisation du terme qui va devenir, dans les décennies suivantes, un outil politique de lutte contre le communisme à compter du début de la guerre froide. Le monde occidental se définit ainsi comme le monde libre, en opposition au totalitarisme. Sur le fond, Raymond Aron va expliquer, sur les deux régimes dits totalitaires, qu'entre les deux, la différence est essentielle, quelles que soient les similitudes apparentes. En effet, elles sont essentielles, la différence est essentielle à cause de l'idée qui anime l'une et l'autre entreprise. Dans un cas, il y a une volonté de construire un certain régime et peut-être un certain homme, par n'importe quel moyen, et dans l'autre, une volonté proprement biologique de destruction de race ou de reconstitution de race. On doit noter aussi un parti unique régnant sans partage sur l'URSS, en face d'un parti nazi en concurrence avec d'autres centres de pouvoir, l'armée, la police, les concernes. En URSS, la terreur s'abat sur le monde traditionnel, le clergé, la petite propriété paysanne, etc. Alors qu'en Allemagne, Hitler ne touchera jamais aux élites traditionnelles qui l'ont aidé à conquérir le pouvoir. En dehors de ces différences notables, il faut aussi remarquer que certains éléments qui servent à définir le totalitarisme, pour les grands auteurs, n'ont pas été pris en compte alors qu'ils existaient dans d'autres pays du monde. Par exemple, les premiers camps de concentration sont américains et concernent les Japonais. Par ailleurs, le régime impérial japonais a présenté des caractéristiques qui pourraient le faire classer en régime totalitaire. Une des sources d'inspiration de la politique raciale de l'Allemagne nazie était américaine également. Alors je vais citer Alfred Rosenberg, donc un nazi, hein, qui parle des États-Unis comme ce splendide pays du futur qui a eu l'idée nouvelle d'un État racial qu'il faut mettre en pratique par la déportation et l'expulsion des nègres et des jaunes. Et pour agrémenter cette critique du terme, d'une note d'actualité, nous citerons la lettre ouverte du 2 décembre 1948 d'Anna Arendt, Albert Einstein et d'autres personnalités juives dans le New York Times. Je cite « Parmi les phénomènes politiques les plus inquiétants de notre époque, il y a dans l'État nouvellement créé d'Israël l'apparition du Parti de la Liberté. » Alors c'était le parti de Menahem Begin, pour ceux qui connaissent. « Un parti politique étroitement apparenté dans son organisation, ses méthodes, sa philosophie politique et son appel social aux partis nazis et fascistes. » Que reste-t-il donc du totalitarisme? Des victimes, ça c'est sûr, des millions, qui n'ont jamais su qu'elles étaient victimes du totalitarisme d'ailleurs. C'est un concept séduisant en termes de facilité d'interprétation de notre monde actuel. pourrait penser qu'il y a un discours unique. L'Union européenne, c'est la paix, la prospérité. La République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité et la laïcité. Un parti unique, mais qui serait divisé en courant, tous d'accord sur le postulat que je viens de citer à propos de l'Europe. La répression de tous ceux qui ne sont pas d'accord est exclue de toute visibilité. On a des exemples de chefs de gouvernement menacés d'être privés de droit de vote au sein de l'Union européenne. Des outils de persuasion de plus en plus concentrés au service de cette pensée. 80% de la presse quotidienne régionale, 60% de la part d'audience en télé et 50% en radio sont aux mains de 11 milliardaires. En revanche, pour ce qui est de l'étatisation de l'économie, le critère n'est pas respecté. Si les entreprises de petite taille, les petites exploitations agricoles et les petites pêcheries sont clairement étranglées, et de toute évidence de manière délibérée, ce sont bien les intérêts particuliers des grands groupes capitalistes qui sont privilégiés. Et l'on sait que nos dirigeants ont du goût pour rendre service. Mais surtout, si l'on pense aux critères de Raymond Aron ou de Brzezinski, quelle serait donc l'idéologie à l'œuvre ? En France, par exemple, le macronisme, le sarkozisme, le hollandisme, le gaullisme peuvent-ils être décemment appelés système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique ? Je pose la question. Alors, qu'est-ce que la société ? Qu'est-ce que l'État dans les régimes nouveaux du XXe siècle ? Je vais commencer par un petit abrégé de l'évolution de la philosophie politique. Une société, c'est d'abord une cause matérielle, une société sont des hommes. Une cause formelle, des hommes partageant un but commun. Lesquels hommes le font parce que leur nature les y pousse. Ils n'y sont pas mus par une contrainte secondaire. C'est aussi évidemment une cause finale et une cause efficiente. Il est alors sûrement opportun de revenir à quelques fondements, parmi lesquels celui qui veut que l'homme est fait d'un corps, d'une âme et d'un esprit. De ces trois composantes, l'esprit est celui qui contient en quelque sorte l'intelligence. Nous observons par ailleurs que pour tout mouvement, il faut un moteur, que pour tout être vivant, il faut un créateur. Rien de ce qui existe n'existe par soi-même. De même que tout ce qui se mesure connaît une sorte d'échelle relative, on est grand par rapport au plus grand et au plus petit, on est loin par rapport au plus éloigné et au plus proche, etc. De même dirons-nous que toute vérité a son principe qui est la vérité même. Ainsi, la vie humaine qui s'élève de plus en plus dans la vie de l'esprit, l'intelligence humaine qui n'est qu'un mouvement vers la vérité, son objet propre, recherche nécessairement la vérité. Et cette vérité qui n'a pas de principe, qui existe par elle-même et de toute éternité, est Dieu. Pour ceux qui ont entendu le sermon ce matin, je reprends un peu quelque chose. Dieu donc qui nous donne la foi pour y croire, la foi est notre moteur et la raison pour le chercher. L'homme cherchant la vérité pour la goûter sans fin, la société politique ne peut pas avoir d'autre but que de l'y aider. C'est sa cause finale. Contre cette politique réaliste clairement établie par saint Thomas d'Aquin vont s'élever en résumé tour à tour Guillaume d'Ockham, qui décide que nous ne pouvons pas connaître l'essence des choses, mais devons nous contenter de leur donner un nom. Il y a des verres blancs, des verres hauts, des verres opaques. Mais qu'est-ce donc qu'un verre ? Je ne peux pas le savoir. Comment dès lors adhérer à une vérité universelle, puisqu'il n'y a plus que des individualités sans essence commune connaissable ? René Descartes, « J'existe vraiment parce que je pense que j'existe », et l'homme est ainsi tourné vers lui-même. Emmanuel Kant, pour sa part, refuse toute connaissance en ce qu'il considère que rien ne nous permet d'être certain de la réalité et de la vérité d'une chose sensible. Alors on s'en tient au phénomène et pas à l'essence inatteignable. Avec Kant, l'homme est donc fixé à ses sentiments, autant dire à ses erreurs, toutes ses erreurs. C'est le subjectivisme. Dans le domaine politique, ces idées vont avoir de graves conséquences. En effet, il va se trouver des penseurs pour écarter la philosophie classique et donner à la société des origines autres que naturelles. On trouve par exemple Thomas Hobbes, pour lequel l'état de nature est un état de guerre et d'anarchie. Comme les hommes sont égaux, ils se défient les uns les autres et sont donc dans un état de guerre permanent. Un état contraire à l'idée même de société donc. Chacun cherchant sa conservation va exercer ses puissances pour préserver sa vie. L'homme est ainsi contraint par la même, pour trouver paix et sécurité, à passer un contrat par lequel il transfère les droits qu'il a, mais qui entravent la paix lorsqu'ils sont exercés individuellement, La conservation étant dorénavant assurée par la société. Vous me dites si je vais trop vite.
Non,
ça va. Hobbes contredit donc ici directement Aristote et Thomiste en niant la nature sociale de l'homme. L'homme n'est un animal politique que par peur. Hobbes fait ainsi de la cité une somme d'intérêt particulier abandonnée par contrat. Le fameux Léviathan, l'état de Hobbes, est total. Il s'occupe de tout le temporel, mais aussi du spirituel, car on ne peut servir deux maîtres à la fois. Hobbes approuve la formule qui lui permet de tout unir sous l'état, et certains penseurs modernes vont faire de Hobbes, d'ailleurs, le père du totalitarisme. Après Hobbes, c'est John Locke, qui nie la nature sociale de l'homme. Moins sombre que chez son prédécesseur, l'état de nature est relativement pacifique, chacun s'afférant à la propriété qui est naturelle et donc antérieure à la société. J'ai dit. Chacun s'afférant à la propriété qui est naturelle et donc antérieure à la société. La société naît en effet, selon cet auteur, de la volonté des hommes de garantir leur propriété. Et ici encore, les hommes passent contrat. Locke nous donnant sa définition du bonheur. Le plus grand bonheur consiste non pas à jouir des plus grands plaisirs, mais à posséder les choses qui produisent les plus grands plaisirs. Dans ce rapide tour d'horizon, n'oublions pas notre gloire nationale, entre guillemets, à savoir Jean-Jacques Rousseau, qui affirmait « l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». On peut s'interroger sur cet homme qui fonde une société alors qu'il n'en avait pas besoin, puisque tout allait bien. Alors restons-en au réel avec Aristote. Le besoin de la société politique est tellement essentiel à l'homme qu'il ne peut pas être le fruit du hasard ni de circonstances particulières. Pourtant, les régimes politiques dits libéraux du XIXe siècle, qu'ils soient monarchie anglaise, la République française, qu'elle s'appelle République, monarchie de juillet ou empire, vont adopter le point de vue du contrat social avec des conséquences très variables, mais amenant inéluctablement au système d'aujourd'hui dans ce que nous appelons l'Occident. Que disaient donc les nouveaux régimes du XXe siècle sur le sujet État ? Côté communisme, c'est Marx qui affirme qu'en principe fondamental, que le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus de vie sociale, politique et intellectuelle en général. Ainsi, le premier acte historique de ces individus, il parle des hommes, par lesquels ils se distinguent des animaux, n'est pas qu'ils pensent, mais qu'ils se mettent à produire leurs moyens d'existence. Ce que sont les individus dépend donc des conditions matérielles de leur production. Et pour finir, ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être, c'est inversement leur être social qui détermine leur conscience. D'ailleurs, l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de lutte de classe. Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, pas de barons dans la salle j'espère, maîtres de jurandes et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une lutte qui finissait toujours soit par une transformation révolutionnaire de la société, soit par la disparition des deux classes en lutte. Dans ces conditions, qu'est-ce que l'État ? L'État auquel les groupes appartenant aux communautés d'une même tribu avaient abouti dans leur évolution, pour au début simplement ne pas perdre de vue leurs intérêts communs et pour se défendre contre l'extérieur, ont désormais tout autant pour fin de maintenir par la violence les conditions de vie et de domination de la classe dominante contre la classe dominée. L'histoire a un sens et la fin de l'histoire, c'est le renversement de cet état de fait avec l'avènement du communisme, société sans classe. Mais pour ce faire, il faut que l'homme soit conscient de son existence de classe et pour qu'il en soit conscient, il lui faut une aide qui est le Parti communiste et les organisations dites ouvrières. Avec Lénine, le parti va être désigné comme responsable de la conduite de la révolution et d'établir la dictature du prolétariat, phase intermédiaire, comme on l'a vu tout à l'heure. On a donc ici une nouvelle théorie du contrat social, défense de ses intérêts et contre l'extérieur, en quelque sorte John Locke et Thomas Hobbes réunis, qui est détruit par un système de production fondé sur l'exploitation des uns par les autres, et au centre duquel contrat se trouve un homme réduit au rôle d'acteur du système de production en question. Qu'en est-il alors du nazisme ? Les penseurs nazis, juristes en particulier, se sont beaucoup disputés sur la question de l'État, mais on peut tracer quelques traits malgré leurs disputes. La société est ainsi une masse d'intérêts accumulés, animée d'un mouvement constant et sans cohérence. Les conséquences politiques sont claires. C'est l'homme privé, porteur de ses intérêts, qui vote dans la démocratie. Donc la démocratie, c'est le règne de la société. Ce qui explique notamment pour les nazis le pourrissement de la République de Weimar. Or, l'autorité ne peut pas aller avec l'intérêt. Donc l'autorité ne peut pas naître de la société. La société ne peut faire naître en quelque sorte que la potestas, c'est-à-dire la puissance, et non l'autoritas, l'autorité. Les intérêts particuliers sont exacerbés par la société industrielle jusqu'à produire la lutte des classes, qui s'exprime bien sûr aussi par le vote dans les parlements. Il s'agit donc pour le nazisme de sortir de cette situation en repolitisant par la force l'État. Comment ? Et en expulsant la société de l'État. Certains penseurs opposent donc un État total qualitatif, c'est-à-dire un État qui écrase tout, à un État total quantitatif, un État qui est étendu à tous les domaines de la société. La nuance n'est peut-être pas simple, mais elle est importante. Ernst Wordhoff, un révolutionnaire conservateur qui va émettre des doutes sur l'État nazi, va quand même écrire « Ce n'est pas le fait que l'État édicte ses lois et ses commandements jusque dans les plus petites cellules de la vie du peuple qui importe. C'est le fait que là aussi, il puisse faire valoir une responsabilité, il puisse exiger des comptes à l'individu qui ne soumet pas son propre destin à celui de la nation. » Or, pour d'autres nazis, l'État est une forme de vie du peuple et pas sa propre fin. On peut poser au passage la question du totalitarisme ici en remarquant qu'il y a rarement question de l'individu. Mais si l'État est une forme de vie du peuple, quel est ce peuple ? Il y en a deux, disent les nazis. Le peuple naturel, unité biologique raciale, et un peuple politique, qui ne peut être séparé du premier. Mais c'est en prenant forme d'État que le peuple naturel, en se dépassant, tout en conservant son caractère, devient peuple politique. Et l'histoire sera l'histoire de la lutte des peuples. Höhn écrit « Si la conception nazie de l'importance de la race dans le peuple doit avoir le moindre sens, alors celui-ci ne peut résider que dans la perception de l'histoire comme résultat de l'action des forces raciales, dans la vision de tous les grands événements historiques comme l'action de la substance raciale. » Fritz Lenz l'affirme, la vocation de l'État n'est pas de se préoccuper des droits des individus, mais d'être au service de la race. Tous les droits doivent contribuer à cet objectif et s'y soumettre. Et si l'histoire est celle de la lutte des peuples, donc des races, l'État étant la forme politique du peuple qui conserve ses traits naturels, va être à la fois dynamique et statique. Le nazisme est très fort. En donnant une identité dans la durée, l'État est l'incarnation de la Volksgemeinschaft. Hans Frank, Gauleiter de Pologne, dit « Le nazisme en tant que Weltanschauung ne sépare plus l'État et le peuple, mais les rassemble dans une unité créatrice. » Donc on voit bien que l'État est vraiment quelque chose de très différent à la fois des individus, du peuple, etc. Alors, quelle autorité pour faire vivre un État à la fois dynamique et statique ? Le Führer, bien sûr. Huber le dit, la loi qui émane du Führer n'est pas un compromis social, mais une décision politique pour créer l'ordre du peuple, conserver l'existence du peuple et accroître la puissance et la grandeur du peuple. Pour tenir le tout, mouvement et forme, il faut tout simplement que le Führer soit l'incarnation même de l'Allemagne, ce que résumera Martin Heidegger, dans son appel du 3 novembre 1933 aux étudiants allemands. Le Führer lui-même et lui seul est la réalité allemande d'aujourd'hui et du futur, ainsi que sa loi. Et l'on retrouve ici les caractères du Führer décrits auparavant, donc l'auteur du miracle économique, le chef militaire hors pair, etc. Ce que l'on note ici surtout, c'est la séparation qui est faite entre la société et l'État. La société n'étant vue que comme collection d'individus aux intérêts divergents et égoïstes, l'homme n'étant lui qu'un acteur de sa race, au seul service de la préservation de celle-ci, dans un mouvement continu incarné par le Führer. Le contrat social est ici présenté dans une nouvelle variante, le renoncement à tout et tout le temps pour la défense de son existence en tant que race. Il ne sera néanmoins pas inutile de poser le manque de précision de la notion de race dans le régime nazi. En effet, pour prouver son statut racial aryen, il fallait remonter à 1800. Sauf pour les futurs SS qui devaient remonter à 1750. Donc il fallait être plus pur, certainement, et 50 ans suffisaient à établir cette plus grande pureté. Dans la fonction publique, un seul grand-parent juif suffisait pour être classé non-arien, mais on était juif intégral avec 3 ou 4 grands-parents juifs. Alors quel est le véritable but de la société, après avoir vu la conception de l'État ? Alors que dans la société antique, nul n'était libre que le sage, celui qui vivait selon l'honnêteté et la vertu. Contrairement aux animaux qui agissent par nécessité, les hommes sont des êtres libres qui choisissent leur action après un jugement de la raison. C'est en effet la raison qui prescrit à la volonté ce qu'elle doit chercher ou fuir, pour que l'homme puisse un jour atteindre son but, qui est la contemplation de la vérité. Saint Thomas d'Aquin dit en effet que l'objet du bonheur de l'homme est un bien au-dessus de lui et en qui seul il peut trouver sa perfection, le bien suprême, souverain et infini, c'est-à-dire Dieu, comme nous l'avons observé au sujet de la cause finale. Cette ordination de la raison, c'est ce que l'on appelle la loi. Mais cette raison ne peut elle-même venir que d'une raison plus haute et n'être que l'interprète de cette raison supérieure à laquelle notre esprit et notre liberté doivent obéissance. La loi repose donc sur une autorité, un pouvoir qui donne ses droits, ses devoirs et les sanctionne. Et si l'homme se donnait à lui-même la règle de ses propres actes, il n'y aurait ni sanction, ni droit, ni aucun devoir possible. Et on peut penser à tout ce qu'on voit autour de nous dans la société actuelle. Et ce qui se dit des hommes se dit évidemment de la société. Ce n'est pas la société qui a fait la nature humaine. Elle se borne à obtenir l'obéissance des citoyens pour les détourner du mal et les amener ou ramener au bien. Or, on a vu avec Locke et Hobbes que les hommes renonçaient librement à tous leurs droits individuels pour un gain de sécurité des personnes ou de la propriété. Pour eux, la cause efficiente, celle qui meut la société, c'est donc l'homme, et non un principe supérieur à l'homme. Dans les deux cas, nous voyons un objet du bonheur fixé dans un ordre inférieur, imparfait. La santé, la sécurité physique, les plaisirs, la richesse, les biens matériels sont bien au-dessous de l'homme fragile et donc faisant résider le bonheur dans un ordre inférieur, sa source réside elle aussi dans un ordre inférieur, l'homme imparfait. Et nous sommes là au cœur de la maladie de la société politique moderne. Léon XIII le dit dans Libertas Presentissimum en 1888. Le principe de tout rationalisme, c'est la domination souveraine de la raison humaine, qui, refusant l'obéissance due à la raison divine et éternelle et prétendant ne relever que d'elle-même, ne se reconnaît qu'elle seule, pour principe suprême, source et juge de vérité. La conséquence est que la cause efficiente de la communauté civile et de la société doit être cherchée non pas dans un principe extérieur ou supérieur à l'homme, mais dans la libre volonté de chacun. Et que la puissance publique émane de la multitude comme de sa source première. De là, la puissance appartenant au nombre et les majorités créant seules le droit et le devoir. En réalité, si l'on fait dépendre du jugement de la seule et unique raison humaine le bien et le mal, on supprime la différence entre le bien et le mal. Le honteux et l'honnête ne diffèrent plus en réalité, mais seulement dans l'opinion et le jugement de chacun. Ce qui plaît sera permis. En conclusion, alors là, on aperçoit qu'on va avoir terminé très tôt. En résumé, dans le cas marxiste, l'homme agit en fonction de sa classe et dans le cas nazi, en fonction de sa race. Et c'est sur cette base qu'est instituée l'autorité. Tandis que la pensée classique nous dit que l'homme est un animal politique fait naturellement pour vivre en société. Les hommes ne pouvant vivre seuls s'organisent dans leur famille, les familles en village et les individus en métier, quand ils ne vivent pas dans les villages ruraux où la pratique agricole est collective. Tous ces ensembles, petites sociétés, les petites communautés, alors je n'ai pas encore lu le livre, je vais faire la publicité, mais il vient de paraître, État et communauté est en vente ici. Donc tous les ensembles, les petites sociétés sont naturelles et ne peuvent être détruits qu'artificiellement, par une révolution par exemple. Qui a été le cas chez nous en 1789, après un travail de sable continu, depuis au moins la montée en puissance de la noblesse de robe. Destruction des corporations, divorce, éducation des enfants par l'État, etc. Notons que ce sont ces mêmes petites sociétés, familles, villages, qui sont dans le viseur des régimes dits totalitaires, parce qu'elles sont un obstacle dans la lutte des classes ou des races qui seules existent. Certes, l'avortement a été combattu en France par le PCF dans les années 60, mais c'est Lénine qui dépénalise le premier les relations contre nature. Souvenons-nous de la collectivisation de l'agriculture en URSS et que le nazisme enrôlait les enfants dès le plus jeune âge, un point commun avec l'URSS d'ailleurs. Il faut rapprocher le sort fait à l'enfance des écrits d'un Lachalotais ou d'un Pierron de Chamousset, et à l'époque révolutionnaire. Résister à des pratiques de nature totalitaire, la censure des médias, les passes sanitaires ou vaccinaux, l'interdiction des retraits liquides supérieurs à 1000, l'identité numérique, etc., etc., avec toutes les préventions qu'il faut avoir quant à ce terme de totalitarisme, comme je pense l'avoir signalé, que nous voyons effectivement se développer ces pratiques totalitaires est possible par l'affirmation de ces vérités éternelles, de la famille, des villages et des métiers, d'un point de vue naturel. Ce sont même les seuls outils naturels à notre disposition. Et par-dessus tout, c'est de la foi que viennent nos forces, parce que ce que nous appelons totalitarisme ne repose que sur une vision naturaliste de l'homme, sans espérance, sans âme, inspirée par le diable et donc s'opposant à la religion. Par conséquent, lutter contre le totalitarisme, ce qu'on appelle comme cela aujourd'hui, c'est lutter avec la foi contre le diable dans ses manifestations. Et personne ne pourra se sauver dans la soumission à toutes ces horreurs. Que servira à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Face à nous, c'est en effet un rouleau compresseur qui ne prenait pas de gants pendant la funeste révolution dite française. Jean-Baptiste Carrier ne disait-il pas « Nous ferons un cimetière de la France plutôt que de ne pas la régénérer à notre manière ». Saint-Just était très clair aussi. Ce qui constitue la République, c'est la destruction totale de ce qui lui est opposé. Ou encore Collot d'Herbois, toujours dans la même période, « Tout est permis pour ceux qui agissent dans le sens de la Révolution ». Avec une priorité pour ces gens, l'éducation qui est un combat toujours plus actuel. Lachalotais écrivait « L'éducation devant préparer des citoyens à l'État, il est évident qu'elle doit être relative à sa constitution et à ses lois ». Elle serait foncièrement mauvaise si elle y était contraire. C'est un principe de tout bon gouvernement, que chaque famille particulière soit réglée sur le plan de la grande famille qui les comprend toutes. Comment a-t-on pu penser que des hommes qui ne tiennent point à l'État, qui sont accoutumés à mettre un religieux au-dessus des chefs des États, leur ordre au-dessus de la patrie, leur institut et des constitutions au-dessus des lois, seraient capables d'élever et d'instruire la jeunesse d'un royaume? Quelle autorité peut-elle donc alors unifier toute notre petite société au sein de la grande famille des familles, la société française qui nous intéresse? Aristote le dit dans sa Politique, « Toute maison est dirigée par un homme plus ancien, comme les fils sont gouvernés par le père de famille. De là vient que les villages eux-mêmes qui étaient institués de par les liens de consanguinité étaient gouvernés au nom d'une certaine connaissance, par quelqu'un qui était le premier dans cette connaissance. » À l'instar du roi dans une cité. Pour faire court, c'est donc celui qui sait, qui peut, qui a le pouvoir, avec des limites, les limites du réel. Donc en synthèse et comme un mot d'ordre, nous pourrions conclure contre 1984, osons 496. Non qu'il faille revenir en arrière, mais qu'il faut que la société chrétienne vive de nouveau. C'est qu'il ne sera donc possible que sous une autorité naturelle à notre pays, loin des chimères de la race, des classes sociales, etc. Une autorité légitime, parce qu'elle s'incarne dans le père de ses peuples, dans toute la diversité de ses organisations locales, de ses traditions, en un mot, le roi. Et j'ai déjà fini. Alors, il n'y aura pas de questions. Le premier qui pose une question, il part au goulag.
Alors, je pourrais développer après hein, encore, mais je me suis dit, il ne faut pas que je fasse trop long. Et j'ai pas pu me chronométrer ni rien. Donc, pour ça, c'est un peu ramassé, un peu condensé. Il y aurait sûrement des choses à développer et à préciser plus. Mais ce que je voulais surtout, en fait, c'était remettre en cause l'utilisation de ce mot totalitarisme. En fait, on devrait utiliser le mot révolution, c'est tout, c'est la révolution qui continue. Et la révolution est un d'essence satanique, le seul outil qu'on a, ben, c'est la foi. Et celui qui sert le mieux la foi d'un point de vue naturel, c'est le roi. J'aurais pu le dire, en fait, en 3 minutes, c'était fait finalement.